Nous avons terminé ce que représente cette petite topique. On pourra la compléter. Hein. Mais je voudrais maintenant, ensemble, que nous essayions d'avoir un regard de philosophie première, donc de métaphysique, sur le relatif. Au plan philosophique. Et nous poserons après la question de savoir si la relation ne nous oblige pas de poser qu'il y a quand même une certaine métaphysique chrétienne. Point d'interrogation, hein, sur secouer ces problèmes dans tous les sens. Point de vue métaphysique, c'est très net. Il n'y a pas un regard chrétien spécifique, différent sur la substance. Mais ce qu'on a dit sur la théologie de saint Thomas à propos de la relation est quelque chose de tellement fort. On doit se reposer la question. Je connaissais un bon dominicain qui, lui, disait que grâce au traité de la théologie de saint Thomas sur la relation, on pouvait dire qu'il y avait un nouveau type de relation grâce au mystère de la très sainte Trinité. Qui serait une relation substantielle. Je pose simplement la question. Puis si j'y reviens pas au terme, vous aurez soin de me le rappeler. Et c'est vrai que je vous disais, et ça je crois profondément, que la relation est le lien entre philosophie réaliste, philosophie idéaliste, c'est dans la relation que ces deux réflexions qui sont extrêmes se rejoignent d'une certaine manière. Alors, est-ce que dans la relation, la métaphysique et la foi ne vont pas aussi un peu s'embrasser? On doit se poser la question. Puisque bon, c'est un des problèmes actuels, hein, savoir s'il y a une métaphysique chrétienne ou pas. Alors, je reprends le problème à la racine, comme toujours au point de vue philosophique. Nous avons une philosophie de l'expérience. Première constatation dans le langage. Il y a une place étonnante de la relation. Donc les philosophes du langage avec le structuralisme sont quand même très alertés par le langage. Le langage est un tissu de relations. Ça, on ne peut pas nier. Faites l'étude grammaticale du langage. Vous voyez des relations tout le temps. Le nom et le verbe. Et ce qui est très curieux, c'est que le verbe est toujours relatif dans le langage. Le verbe peut être pris de façon absolue, mais normalement, un verbe actif, présent, futur, toujours, toujours relatif. Toutes les qualités substance qui est attribué, donc il est relatif. Pierre est un homme. Vous voyez que homme est relatif à Pierre. Et cependant, homme relatif à Pierre n'est pas dans sa signification quelque chose de relatif. Ah, c'est cette fameuse chose. Nous avions déjà dit un mot là-dessus à propos d'Aristote, qui dans les prédicaments est très attentif au langage, au legetai, ce qui est dit, ce qui est attribué. Vous voyez qu'il y a une frontière, mais vous voyez que vous utilisez même la substance seconde d'une manière relative. Très étonnant, ce qui prouverait qu'au point de vue de la connaissance, l'intelligence est capable d'utiliser même un terme absolu d'une manière relative. C'est très étonnant. Pierre est un homme. Que vous dites Pierre est intelligence à votre choix. Intelligence est la qualité. Vous voyez qu'il y a des conjonctions qui mettent des relations, toute une proposition. Le « est », pas le verbe « être », mais le « est », conjonction. Vous avez des adverbes qui rendent les choses relatives, selon le temps, selon le lieu. Maintenant, toujours, vous voulez échapper à l'aspect relatif. Voyez donc que le langage est un tissu de termes relatifs et que le langage est enveloppé de l'intelligence qui rend tout relatif, même les termes dont la signification est absolue. Donc je ne peux pas nier, quand je regarde le langage, qu'il y a quelque chose de particulier dont la signification est tout autre que le sujet. Ça, c'est simple. Tout le monde peut avoir ce point de vue-là. Je n'insiste pas plus. Le langage n'est qu'un signe au point de vue philosophique. Donc le langage m'éveille. Je pourrais aussi faire la constatation des savants qui considère que tout notre univers physique est relatif. La relativité de toute chose. La relativité prise de façon absolue. Einstein, la physique, les sciences de façon générale, les sciences modernes, demeurent dans le relatif. La loi, même la loi, est quelque chose de relatif. C'est une attente d'une loi plus universelle pour une théorie. Vous ne pouvez jamais dire que vous avez atteint l'absolu en science. Vous êtes toujours en attente vers quelque chose de plus. Voilà l'indéfini. Vous ne pouvez pas dire maintenant ma recherche biologique est terminée. Mais non, on va inventer un instrument nouveau qui vous permettra de discerner des choses que vous n'avez pas vues avant. Et vous devrez tout recommencer. Parce que dès que vous trouvez quelque chose de nouveau, en science, tout change. C'est extraordinaire de voir ça. Vous découvrez ça surtout dans la paléontologie. Quand vous découvrez un crâne, Il faut regarder tout le point de vue historique à ce point de vue-là. C'est très très intéressant. Parce que chaque fois, vous recommencez à donner toute une théorie de l'origine de l'homme. Il y en a eu beaucoup comme ça. Dès que vous retrouvez, découvrez un crâne sur lequel est inscrit Adam. Vous voyez, complètement fauché. Et c'est vrai. relation en mathématiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout repose sur des axiomes. Et l'axiome n'est-il pas quelque chose d'absolu? C'est une relation nécessaire. Alors ça, c'est extrêmement intéressant comme constatation au plan philosophique. Je constate ça. Et j'ai l'impression que mon intelligence est faite pour le relatif. Et quand elle est fatiguée, elle cherche un repos. Et le repos, c'est dépasser le relatif en faisant ce saut prestigieux, découvrir un principe. Mais est-ce que le principe lui-même ne s'exprime pas d'une manière relative? Et donc, il semblerait que le conditionnement de mon intelligence, qui est tellement fort, fait que même l'absolu, je le ramène au relatif. Alors je comprends très bien comment le langage, la science, conduit le philosophe à dire tout est relatif. Et que je ne connais que le relatif. Alors évidemment, c'est exactement comme dans l'ascension d'une montagne. Quand je m'arrête à 1000 mètres, j'ai un panorama très beau. Quand je m'arrête à 2000 mètres, j'ai un nouveau panorama, tout à fait différent. J'assume le premier. Quand je suis à 10 000 mètres, j'assume tout ce qui est avant. Au fond, c'est comme ça. Alors quand vous prétendez atteindre l'absolu, mais non, l'absolu, c'est le tout. Et l'ensemble de tout est relatif. Alors on conçoit très bien quelqu'un qui a déjà parcouru beaucoup de terrain, arrive à une nouvelle synthèse. Mais tout est dans la synthèse. Et la philosophie, ce n'est qu'une grande synthèse. C'est ordinairement ce que les savants disent de la philosophie. Le philosophe a une vision synthétique. Le savant a une vision analytique. Et l'analyse me donne la relation. Et la synthèse me donne le tout. Mais le tout, c'est tout simplement l'ensemble des analyses. Pas plus que ça. Hein, voyez, combien Occam a saisi que le jugement, c'est l'ensemble des appréhensions. Continuez. Et vous restez tout le temps dans le relatif. Donc, première constatation brutale. Forte tentation, non pas de nier la relation, non pas de nier le relatif. La grande tentation moderne, c'est de voir que tout est relatif. C'est pour ça qu'on pourrait, d'une certaine manière, commencer la métaphysique par ça. Au point de vue pédagogique, ce serait peut-être très bon. Tandis que si vous commencez la métaphysique par la substance, je suis plus habitué de marcher sur la tête, moi. Et vous me faites marcher sur la tête. Ben non, mettez-moi sur les pieds très vite. Je suis beaucoup plus là dans le domaine. Tout est relatif. Allez. Est-ce que le relatif me permet de comprendre la substance? Ah, une autre question. Situez bien toutes ces questions du point de départ dans lequel on comprend très bien ça. Vous avez tout senti. Il y a une manière abrupte de commencer la métaphysique, découvrir la substance. Une manière horizontale de découvrir la métaphysique, commençons par le relatif. C'est vrai, je crois qu'on peut très bien faire ça. Ce serait alors une merveilleuse miséricorde vis-à-vis de tous ceux qui sont plongés dans le relatif. Je dirais, rester dedans, c'est bien, c'est intéressant. Mais c'est simplement des niveaux différents. C'est déjà quelque chose. Des niveaux différents de synthèse. Marzin, mais en fonce d'un tout supérieur, un méta-tout. Alors vous avez l'immense avantage, c'est qu'il y a très peu qui y ont été. Donc dites tout ce que vous voulez, vous êtes seul à avoir y été. Alors vous êtes tranquille. C'est vrai, il n'y en a pas tellement qui ont fait cette ascension. Alors ils peuvent dire tout ce qu'ils ont vu, personne ne vérifie.
De notre monde de fin du XXe siècle. Parce que certains
cherche éperdument et ne trouve pas, et constate que tout est relatif. Et eux-mêmes n'arrivent pas à découvrir la relation la plus typique, la plus forte. Ce que cherche toujours le philosophe, hein, le philosophe, c'est que c'est très difficile de savoir ce que c'est que la relation. Alors, il sait à peu près, quand il entend parler des amis, quand il voit dans l'écriture certaines amitiés qui sont décrites et qui sont profondes, dans les traditions religieuses, il sait bien que c'est à travers l'amour d'amitié qu'on découvre la relation la plus forte, à la fois la plus subjective à cause de l'affectivité et la plus objective, l'ami. L'ami qui justement est quelqu'un qui me permet de sortir de moi par son absolu. Alors je trouve tout de suite dans l'amour d'amitié que j'ai vécu, ou l'amour d'amitié que quelqu'un en qui j'ai totale confiance me dit. Toujours comprendre ça, hein. Il y a la canne de l'aveugle. Faut pas l'oublier. Si j'ai pas l'expérience, j'ai confiance en quelqu'un qui lui a l'expérience. C'est un transfert métaphysique. C'est la canne de l'aveugle. J'accepte que dans ce domaine-là, oui, il y a quelque chose en moi qui m'interdit, qui m'empêche de rencontrer l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être dans ma jeunesse, il y a eu un mur qui s'est fait. L'autorité, le pouvoir, la tyrannie avait un mur. J'étais emprisonné et je n'arrivais à dépasser ce mur. Il est tellement haut et je n'arrive plus à passer par en dessous parce que ce mur descend très bas. Il faut reconnaître ça dans notre monde d'aujourd'hui. Ça existe. Il y a des aveugles au point de vue affectif qui n'ont jamais rencontré l'autre. Qui n'ont jamais aimé et qui n'ont jamais été aimés. Du moins, ils prétendent qu'ils n'ont jamais été aimés. Ils le prétendent parce que les autres disent l'inverse. Mais ils n'arrivent pas à croire en l'amour. Or, je crois qu'on a l'expérience de l'amour que quand on commence à croire en l'amour, comme toujours. Et ça va quelquefois jusque-là. Ils n'arrivent pas à croire en l'amour. Et disent, c'est impossible. Alors, à ce moment-là, si on veut faire un peu de philosophie, on prend la canne de l'aveugle. J'ai à côté de moi certains qui disent qu'ils ont l'expérience de l'amour d'amitié et reconnaissent que cette expérience de l'amour d'amitié, c'est la relation la plus forte qui soit. C'est donc là où je dois essayer de comprendre ce que c'est que le relatif. Et dans cette expérience de l'amour d'amitié, tous disent qu'il y a dans l'amour d'amitié à la fois l'expérience de quelque chose qui me met hors de moi. L'amour est extatique. Et il est parfaitement extatique dans l'amour d'amitié. Et j'allais dire seulement dans l'amour d'amitié. Et dans la contemplation. Mais je ne regarde pas la contemplation directement. Je regarde en premier lieu l'amour d'amitié comme la grande expérience de la absolu, de mon absolu, de mon bien. L'ami. Je n'aime pas l'ami parce qu'il est relatif à moi. Je crois que ça, c'est l'impasse. Des quantités ne découvrent jamais l'amitié à cause de ça. C'est la grande impasse. C'est qu'on ne veut aimer que celui qui nous aime. Mais c'est comme une vieille pompe qu'on n'arrive plus à faire marcher. Mais il faut mettre de l'eau dedans pour que ça marche. Tout le monde sait ça. C'est le bon sens. Il faut la réagir, la remettre un petit peu. Et bien, c'est comme ça l'amour d'amitié. Ceux qui ne veulent aimer qu'un ami, c'est-à-dire celui qui m'aime, prétendent tout le temps qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui les aime. Et c'est très vrai, il y a là quelque chose qui est très très particulier. Est-ce que vous aimez l'ami comme un bien qui vous dépasse? Ou est-ce que vous aimez l'ami en tant qu'il m'aime? C'est assez subtil, mais c'est justement à cause de ça que c'est la terrible tentation. Et c'est la tentation qui demeure tout le temps chez des êtres, des personnes humaines qui n'ont pas encore découvert la différence entre l'intelligence et la raison. L'intelligence seule permet de découvrir le bien. La raison me permet de découvrir celui qui m'aime. C'est curieux, ça. Parce qu'on découvre le relatif. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, depuis Descartes, l'entendement ramène l'intelligence à la raison. Et c'est pour ça que depuis Descartes, l'amitié a disparu. Il y a la camaraderie, dernier succès d'année de l'amitié. On est là à côté, vous savez, à côté de quelqu'un pendant le cours. Et on se retrouve toujours à côté de quelqu'un pendant le cours. Au repas aussi, en récréation aussi, on se retrouve tout le temps comme ça. On use ses vêtements les uns à côté des autres. Asinus, asinum fregat. C'est ce genre d'amitié, c'est l'âne, fréquente l'âne, et tout près, juxtaposé. Mais c'est pas ça l'amitié, ça c'est la camaraderie. On use ses coudes, les uns à côté des autres. Alors, l'expérience de l'amitié, hein, j'y reviens parce que je crois ça capital pour découvrir ce que c'est que la relation. C'est ténu l'expérience de l'amitié, c'est très subtil. Un esprit de finesse, un esprit de géométrie, ne dire, n'a jamais découvert l'amitié, parce que l'esprit de géométrie, c'est la raison. C'est l'esprit de finesse qui me permet de découvrir une personne comme mon bien. Au-delà de savoir si elle m'aime ou même pas. Ça qui est très très grand et qui est tellement important. Effectivement, je découvre un bien. Et je m'attache à ce bien. Et je suis pris par ce bien. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce premier amour, il n'y aura jamais l'amitié. Voilà la source. Remontez à la source. Il faut découvrir cela. Alors là, on crève le plafond, vous voyez ? Le plafond du raisonnement. Le plafond de ce que représente l'entendement cartésien. Alors, il faut des années, à la paille de fer. Et la paille de fer qui n'est pas celle du Saint-Esprit, qui est la paille de fer de notre intelligence qui veut mettre comme intelligence et qui découvre le bien, qui découvre l'amour. Je découvre cette chose très étonnante que quand j'aime, je me quitte. Mon moi disparaît. Et je suis au-delà de mon moi. Et si subitement, je découvre que cette personne que je considère comme mon bien même, elle est relative à moi. À ce moment-là, il y a une sorte d'épanouissement. Saisit pas la substance principe d'être. Et c'est pour ça que c'est la saisie de la substance principe d'être qui libère mon intelligence de tous les raisonnements. Parce que quand je raisonne indéfiniment, je n'arriverai jamais à aimer. Et certaines personnes aiment plus les raisonnements autour de leur moi que le dépassement de l'amour. Psychologiquement, ça c'est constant. C'est là où la psychologie doit nous aider au plan métaphysique à comprendre que constamment il y a un obstacle qui nous enferme en nous-mêmes. Et cet obstacle qui nous enferme à nous-mêmes, c'est notre poids psychologique qu'on enveloppe de raisonnement indéfiniment. Alors, quand j'aime vraiment une personne, et quand je suis aimé de cette personne, je la choisis. Et on se rencontre dans ce choix. Et au niveau humain, je dis bien au niveau humain, c'est un certain absolu. Et c'est pour ça que c'est si difficile même, au point de vue alors de la foi, point de vue théologal, de dépasser l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, normalement, devrait nous conduire vers Dieu. Mais l'amour d'amitié peut être un obstacle, exactement comme la substance saisie comme principe permet de découvrir l'intelligence. Mais si je reste au niveau du sujet, du moi, ça devient un obstacle. Important de saisir ça. Et c'est cette recherche de la relation qui me met en face de cela. Je vois donc que l'amour d'amitié, c'est une relation d'amour personnelle qui atteint le bien personnel. Elle-même dans son exercice a besoin de la réciproque. Comme c'est curieux. Quand je sais que l'autre m'aime, il y a épanouissement de ce premier amour qui peut alors connaître à ce moment-là un développement plénier. Si je commence à douter de l'amour de l'autre, il y a une répercussion immédiate. Et mon amour perdra son élan. Est-ce que là, je ne saisis pas la fragilité de l'amour, la vulnérabilité de l'amour? Besoin de l'autre, qui pourtant est considéré comme un absolu. J'ai besoin de l'autre pour pouvoir aimer pleinement. Ce n'est pas l'amour de l'autre qui spécifie mon amour. C'est l'autre comme bien qui spécifie mon amour. Parce que le jour où l'amour de l'autre spécifie mon amour, on va tous les deux à la catastrophe. Ça peut durer un certain temps, mais ça ne dure jamais très longtemps. On va à la catastrophe, tout le temps. Parce qu'on n'aime plus vraiment l'autre. Et il n'y a plus de dépassement. On reste dans l'immanence, le ronron de deux petits chats. Ils sont heureux, c'est chaud. Alors c'est le ronron dans l'immanence de l'amour mutuel et humain. Il n'y a plus de dépassement. Très très curieux, ça. Et ça, c'est justement qu'on ne considère plus que l'amour vrai porte sur le bien, sur la personne. Que cette personne m'aime, ça me permet l'épanouissement dans l'exercice de l'amour d'amitié. type de relation, tout en étant distinctes et spécifiquement distinctes, se compénètrent l'une dans l'autre dans l'exercice. Donc je vois la complexité. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Il faut cette dualité pour qu'il puisse y avoir une relation plénière. Mais je suis bien en face d'une relation qui me saisit.